Voilà, donc on reprend avec la deuxième intervention sur les représentations, voilà, représentations des mathématiques dans la musique.
Tout à fait. Alors, je ne vais pas projeter encore quoi que ce soit sur l'écran. Je projetterai des exemples musicaux, c'est-à-dire je projetterai les partitions des musiques qu'on entendra le moment venu, ou alors de petits fragments d'exemples musicaux. Bien, j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un tout petit peu à la suite de la dernière partie de la présentation d'Arturo Fuentes. J'aimerais parler sur les représentations des mathématiques dans la musique. J'ai mis ce titre « Des mathématiques dans la musique » exprès parce qu'en général, je parle de représentation musicale d'idées mathématiques, c'est le titre de ma thèse à l'Université de Paris 8. Et au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que quand on parle de représentation musicale, comme en particulier ici à l'IRCAM avec l'équipe de représentation musicale, on comprend généralement la représentation de la musique ou de certains aspects de la musique par ou dans un autre espace formel ou symbolique. C'est-à-dire on se sert d'un outillage abstrait, symbolique, formel pour représenter la musique, pour manipuler, modifier, transformer, opérer sur certains aspects de la musique. C'est une approche évidemment tout à fait intéressante et à laquelle on ne peut pas vraiment échapper si tant est qu'on se penche un tout petit peu sur les aspects formels de la musique. Ainsi, on peut dire que dès qu'on a une notation musicale bien établie, c'est-à-dire depuis le début de la période baroque, un petit peu avant, on a déjà une représentation de la musique. Et en fait, en y regardant d'un tout petit peu plus près simplement, on voit que cette représentation-là, non seulement elle a des aspects évidemment mathématiques, comme on le verra par l'utilisation qui en est faite avec toute une algèbre simple évidemment, mais toujours une algèbre des mélodies avec les inversions, les rétrogradations, les augmentations, les diminutions et toutes les règles du contrepoint qui peuvent être assez facilement formalisées en termes mathématiques. On a non seulement ces aspects-là, mais on a aussi, et c'est ça qui est pour moi, pour cette conférence-ci, le plus intéressant, on a aussi les enjeux qui apparaissent avec toute représentation. Je pense particulièrement à toutes les réductions qui ont dû être faites, ou qui doivent toujours être faites, sur ce qu'on représente lorsqu'on représente. Je m'explique. La notation musicale surgit, en fait, comme une généralisation d'une notation qui était apparue pour la voix. La notation que nous utilisons aujourd'hui est héritière de la notation pneumatique qui, elle, justement, indiquait des inflexions de la voix. Or, la voix humaine a certaines caractéristiques timbrales et de hauteur qui la rendent différente des instruments en général, ou en tout cas aussi singulière qu'un autre instrument quelconque. En particulier, la facilité de comprendre une hauteur bien définie dans la voix a guidé, on peut dire en simplifiant un peu, que c'est cela qui a guidé l'établissement de cette notation qui a abouti à la nôtre. Donc, quand on a commencé à noter pour les instruments, on a fait une énorme simplification de tout ce qui est bruit transitoire, ce qu'on peut aujourd'hui, mais pas à l'époque, appeler transitoire d'attaque, c'est-à-dire toutes les irrégularités, toutes les choses instables du son instrumental ont été en quelque sorte évacuées dans la représentation qu'on en a fait sur une partition. Et cela, bien sûr, on peut se dire, mais alors on est en train de perdre beaucoup d'informations. Oui, certes, mais on est en train d'inclure, on est en train de rendre possible des tas d'opérations sur ces objets sonores auxquels on n'avait pas accès auparavant. Et c'est ça, pour moi, qui est la chose importante quand on parle de représentation de la musique dans un espace abstrait ou avec une famille de symboles abstraits. On doit obligatoirement laisser de côté certains aspects, c'est-à-dire on ne vise jamais, en faisant une représentation, ou presque jamais, à représenter intégralement, à faire une copie intégrale de l'objet que l'on représente. Ça n'aurait d'ailleurs pas beaucoup de sens. C'est la célèbre histoire du poème de Borges, de la population qui voulait faire une carte, un plan si précis de leur pays, qu'ils ont fini par faire un plan de la taille exacte de leur pays avec tous les détails à échelle 1 à 1. Évidemment, ça n'a pas de sens, ça n'a pas beaucoup d'utilité de représenter ainsi. L'avantage d'une représentation, c'est justement de choisir certains aspects, certaines propriétés à représenter en laissant tomber les autres, quitte après à faire une autre représentation du même objet qui prioriserait d'autres aspects. On en choisit quelques-uns pour pouvoir opérer dessus. L'idée donc de la notation musicale, si je m'attarde sur la notation, c'est parce que elle est pour moi une représentation emblématique de la musique en quelque sorte. Toutes les autres ont des enjeux à peu près similaires ont au moins les enjeux de la notation traditionnelle. Elles peuvent en avoir d'autres. La notation justement a permis, par à la fois cette simplification et cet ajout d'opérations, elle nous a permis de dépasser simplement le stage d'un aide-mémoire. C'est-à-dire la feuille, pour prendre la citation de Serre, qu'Arturo faisait à l'instant, le début de la citation en tout cas, quand il dit « La feuille de papier qui est là devant vous, vous aide à ne pas oublier ce que vous aviez en tête. » Évidemment, on peut dire que une des premières fonctions d'une notation quelconque, pas seulement de la musique, est effectivement de nous permettre de ne pas oublier. C'est-à-dire, je peux accumuler sur le papier beaucoup plus que ce que je ne pourrais facilement, ou humainement même, retenir dans ma tête sans m'induire en erreur ou sans erreur de modification d'une partie, soit carrément de perte de certaines parties. Mais là est la chose la moins intéressante, à mon avis, de la notation. Parce que, surtout aujourd'hui, où on peut enregistrer des sons avec une fidélité entièrement suffisante pour que mon oreille ne fasse pas la différence, ou presque, entre un son enregistré et un son produit en direct, si la diffusion est suffisamment bonne, si l'enregistrement est suffisamment bon. L'intérêt de la notation est justement de ne pas représenter intégralement le son, mais de me permettre de travailler sur ces objets-là, pas seulement sonores, mais des objets musicaux. Et quand je dis objets musicaux, je mets en plus du son tous les rapports qu'on peut établir entre eux. C'est sur ces rapports qu'il est intéressant de travailler. La notation devient donc non seulement un outil de conservation, mais surtout un outil de travail. C'est-à-dire on compose avec la notation musicale et pas seulement grâce à la notation musicale. Et on compose la notation musicale elle-même au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure même d'une propre œuvre. On peut remarquer ça dès les débuts de la notation musicale. Elle a toujours été poussée dans ses limites par les compositeurs. C'est-à-dire, le fait d'avoir une représentation opérationnelle, c'est-à-dire d'avoir un outil qui me permet de réaliser des opérations qui, en fin de compte, affecteront des objets, affecteront une œuvre musicale, cet outil-là, évidemment, les compositeurs ont toujours voulu l'améliorer. Ainsi, on retrouve déjà chez Monteverdi, dans Il Combattimento di Tancredo e Clorinda, une indication qui est écrite sur la partition en texte très grand: qui si lascia l'arco e si strappano le corde con due dita. Ici, on laisse l'archet et on pince les cordes avec deux doigts. Ce qui, ultérieurement, serait très abrévé par pizzicato sur la partition. Et aujourd'hui, personne ne songe à écrire sur une partition pour cordes d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pizzicato, ou de se justifier: voilà, effectivement, je cherche ici un effet sonore, un nouveau mode de jeu. Si je l'écris tout petit, c'est parce qu'en fait, en plus de pitch, je vais marquer des tas de trucs dessus, mezzo forte, avec un accent et avec une liaison. Cette avancée sonore de Monteverdi, qu'il était obligé de noter en toutes lettres dans la notation, est devenue un élément opératoire, un symbole en plus dans la notation, qui non seulement est devenu complètement habituel pour n'importe quel instrumentiste de la famille du violon, mais a été ensuite repris par d'autres instruments. Donc pour la guitare acoustique, quand on écrit pitz pour la guitare acoustique, on sous-entend que c'est un jeu sur les cordes étouffé. Bien sûr, la guitare acoustique ne joue traditionnellement qu'en pinçant les cordes, mais on hérite la notation, c'est-à-dire on hérite l'objet symbolique, le petit dessin, P-I-Z-Z, un point, on hérite le petit symbole pour vouloir dire pour indiquer un autre mode de jeu complètement différent. Ensuite, dans le XXe siècle, on a même utilisé pits pour des instruments avant, parfois une modification du pits pour, même pour la harpe et pour des tas d'autres instruments. Je veux pointer avec ceci que la notation est, je le répète, pas seulement la notation, mais toute forme de représentation, la notation en particulier, profite des avancées que font les compositeurs dans leur recherche directement musicale, dans leur recherche sonore, et elle profite de ça parce qu'elle est un outil d'opération sur ces objets. Je vais être un tout petit peu plus précis quand je parle d'opérer sur les objets, pour que je puisse ensuite aller vers les représentations dans la musique. Évidemment, je fais un raccourci quand je parle que la notation musicale nous permet d'opérer sur les objets. Justement, elle ne permet pas ça. Opérer sur un objet musical, sur le son d'un violoncelle, c'est prendre le violoncelle et le jouer, prendre le saxophone et le jouer. La notation, évidemment, n'opère que sur elle-même. Il y a donc un passage, un aller-retour entre, pour la notation qui s'adresse à des instruments joués par des êtres humains, il y a un aller-retour entre un geste instrumental, une exécution sur l'instrument, je pense en général à un geste instrumental, pour pouvoir généraliser pas seulement à la production d'un son, mais tout le geste de l'instrumentiste, d'un côté, et de l'autre, une notation, une prescription, une indication sur le papier qui est écrite dans un code qui est symbolisé, et ce code-là s'apparente en fait à un langage formel comme celui des mathématiques, comme celui de la logique formelle. On ne peut pas forcément dire que c'est exactement un langage formel, il faudrait faire attention à certains termes d'une définition, mais ça s'apparente à un langage formel dans le sens où on a des symboles un ensemble fini de symboles qu'on peut manipuler, qui n'ont pas de sens en soi, mais qui gagnent un sens par leur utilisation, par les règles de combinaison de ces symboles. Donc ces règles-là existent, on a une syntaxe de ces symboles, on peut reconnaître une partition qui est bien écrite ou mal écrite, c'est-à-dire si les notes sont orientées de la bonne façon, s'il manque des lignes supplémentaires ou s'il n'en manque pas. On arrive à objectivement dire si la notation suit les règles, ces règles syntaxiques. Et en plus, on a, jusqu'à un certain point, on a une sémantique de la partition musicale. Alors, encore une fois, il faut faire très attention avec le mot sémantique. Il peut prendre de vastes significations. Je le prends ici dans un sens très très restreint, c'est on sait, lorsqu'on sait lire une partition pour un instrument, on sait que faire du côté instrumental, avec ce qui est écrit sur la partition, avec cette suite de symboles et de dessins. Donc, c'est en ce sens-là simplement que je prends sémantique de la partition musicale. Et je dirais parfois sémantique musicale que pour ce cas-là. Sémantique, j'évite le terme sémantique musicale parce qu'il est, il ouvre à confusion très souvent. Donc, on a ce passage. On commence par savoir, ou par essayer de noter certains aspects du geste instrumental et du résultat du geste instrumental, on l'écrit, on le symbolise. Ensuite, on a des règles syntaxiques et des règles de manipulation de ces symboles-là qui prennent en compte le premier passage et donc le retour au geste instrumental. La notation et toute représentation utile en fait de la musique permet ça, elle nous permet de construire des résultats musicaux, des résultats qui seront interprétés par des instrumentistes, qui seront exécutés musicalement et donc entendus après, qui n'auraient probablement pas surgi sans elle. C'est en ce sens, encore une fois, que la notation n'est pas simplement un aide-mémoire. Elle n'est pas là simplement pour m'empêcher, pour m'aider à ne pas oublier, mais elle est là pour me permettre de faire d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Un exemple classique est le contrepoint double à l'octave, qui est tous les contrepoints qu'on peut inverser, c'est-à-dire je suis des règles de notation qui viennent, elles, de règles d'écoute, c'est-à-dire que sont des intervalles consonants, comment je les enchaîne, comment je passe de l'un à l'autre, très bien, mais je rajoute des règles qui ne sont pas forcément audibles et qui m'indiquent que si je change l'ordre des voix pour lesquelles j'écris, si je mets celle qui était plus grave, je la mets une octave au-dessus, et elle a fait passer au-dessus de la voix qui avant était supérieure, eh bien je continuerai à respecter les mêmes règles qu'avant. Donc évidemment, c'est très dur, voire impossible, d'entendre qu'un contrepoint, qu'on pourra faire cette inversion d'un contrepoint, ou qu'on pourra le jouer à l'envers ou en inversant les intervalles, et toujours respecter les règles. Cependant, c'est quelque chose qui a suscité des œuvres, plusieurs, dont certaines évidemment les plus connues par Bach, qui a évidemment beaucoup exploité ce potentiel de la notation. Voilà les choses ou des exemples pour moi qui sont assez frappants quand je pense à la notation musicale, et ils sont en fait, ils réapparaissent en fait dans toute représentation de la musique. Ainsi, lorsqu'on représente effectivement dans un logiciel quelconque d'édition du son, ou un logiciel d'analyse sonore comme Audiosculpte, ou un simple éditeur d'ondes, lorsqu'on représente graphiquement un objet sonore, cette représentation elle-même nous permet certaines manipulations. Alors, on aura évidemment certaines représentations pour lesquelles il est plus aisé de faire l'aller-retour entre un résultat sonore et la suite de symboles, c'est-à-dire le support abstrait non sonore sur lequel je travaille, mais on a aujourd'hui en général des outils qui nous permettent cet aller-retour. Donc, c'est cette constatation qui me fait dire en fait qu'on peut parler autant de représentation musicale pour une partition que d'écriture musicale pour une représentation de forme d'onde, pour la représentation d'un son décrit sous une forme de fichier, par exemple C-Sound, ou la construction d'un son dans un patch MaxMSP ou dans tout autre logiciel de synthèse sonore. Il s'agit là, en fait, au même titre qu'une partition musicale, il s'agit là d'écriture musicale. De même qu'une partition est une représentation de la musique, aussi un patch d'Open Music, un patch de MaxMSP, une partition C-Sound, une définition d'instrument C-Sound et une forme d'onde sont des possibilités d'écriture musicale. Bien, ça, tout ça pour moi est l'un des versants du mot représentation, de l'expression représentation musicale. Il s'agit donc bien de prendre la musique et de la représenter ailleurs. En fait, si on regarde l'idée de représentation de façon un peu plus générale, on peut dire, en simplifiant peut-être un tout petit peu, que quand il est question de représenter quoi que ce soit, on a d'un côté un objet, je prends le mot objet volontairement de façon vague, on a un objet que l'on veut représenter, d'un côté, et de l'autre côté, un espace abstrait, un langage, plutôt formalisé généralement, où un outil, des symboles, on a, pour parler généralement, un espace abstrait dans lequel on va représenter cet objet. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de représentation. On va prendre quelque chose pour le représenter ailleurs. Et évidemment, ça, ce sont les deux extrêmes de la représentation, et on a tout le passage entre les deux. Si je reprends l'exemple de la partition, le passage entre le geste instrumental et ses résultats et la partition est un énorme filtrage de tout ce qui est transitoire d'attaque, de beaucoup d'intentions du musicien. On ne note donc pas toujours combien de vibrato on va avoir, quelles sont les exactes nuances entre un piano et un mezzo-forte quand on fait un crescendo, etc. On simplifie pour pouvoir noter, et donc on a représenté un geste instrumental dans un espace abstrait qui est celui de la partition. Je reviendrai sur le mot espace plus tard, en reprenant les idées de Arturo Fuentes aussi. Ça, c'est ce qui est en jeu quand on parle de représentation. Et donc, comme je disais, le plus souvent, quand on entend représentation musicale ou représentation de la musique, c'est cela qu'on entend. On prend comme objet la musique, ou une partie de la musique, ou une activité musicale, et on cherche à la représenter dans un autre espace abstrait. Encore une fois, pourquoi on ferait ça ? Parce que dans cet autre espace abstrait, on s'est débarrassé de certains aspects de l'objet qu'on voulait représenter, on a mis en évidence certains autres, et surtout, dans ce transfert et dans l'organisation principalement de cet espace dans lequel on représente, on a des liens qui peuvent s'établir ou des liens qui sont supposés entre les éléments qu'on a représentés. On peut travailler sur eux, là on a les outils pour travailler, on a une syntaxe, des opérations, toute une signification à l'intérieur de cet espace qui nous permet de modifier ce qu'on a représenté pour revenir après, pour faire le passage inverse, repasser à l'objet qu'on représentait et y retrouver des modifications. C'est en fait une espèce de manipulation à distance d'un objet, grâce à cette représentation-là. Ce que je propose, ce que je propose de faire dans ma recherche musicale, moi, musicale et musicologique, c'est un peu l'inverse de cela. Il s'agit toujours de représentation, le titre de ma thèse et du livre qui sort bientôt, c'est probablement le même, représentation musicale d'idées mathématiques. Je cherche à faire en quelque sorte le contraire. Il s'agit toujours de représentation, c'est-à-dire je vais prendre d'un côté un objet, entre guillemets, et le représenter ailleurs, mais ce que je vais prendre comme objet, ce sont les mathématiques, ou un aspect des mathématiques, ou une idée mathématique. Elle peut être simple, complexe, riche, pauvre, enfin, peu importe. Et je vais la représenter, ce que j'essaie de faire, c'est de la représenter en musique. L'espace de représentation dont je veux me servir est la musique. Donc c'est de prendre les mathématiques et de les faire, j'allais dire exister, de les représenter tout simplement dans la musique. De la même façon qu'on fait pour une partition où je prends un do joué au violoncelle, mezzo forte, je le représente par un suite de symboles, je mets une clé de fa, je mets un do, je mets mezzo forte, arco, voilà, j'ai dessiné quelque chose qui, quand je sais le lire, m'indique ça, peut même me faire penser, me faire imaginer le son qu'aura cela, ben, je fais le contraire. Je prends une idée mathématique comme celle de distance ou de rapprochement ou celle de dérivée, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans une de mes pièces, et je vais la représenter en musique. Alors, je vous propose d'écouter un morceau de musique un instant. Je vais vous trouver la partition. Justement, celui qui s'appelle toute fonction dérivable est continue. Ah non, pardon, pas ça. Les mois ont partitions primitives. Une pièce toute courte pour violon seul. Bien, je propose qu'on écoute d'abord cette pièce et je parlerai ensuite des représentations dont je me suis servi, enfin des idées mathématiques que j'ai voulu représenter là-dedans. Le procès des partitions sur l'écran, c'est toujours un peu flou, enfin, souvent un peu flou. Donc il y a ici une copie, une copie de la partition, si quelqu'un veut la consulter. Je vais essayer de suivre sur le. Sur l'écran aussi. cela. C'est une toute petite pièce pour violon seul qui s'appelle Lemma 1, Partitions et Primitives. Lemma 1, Partitions et Primitives. Sur cette pièce-là, donc je reprends l'idée que je disais à l'instant. Dans pratiquement toute ma démarche musicale, j'essaye de prendre, je m'intéresse à prendre des idées mathématiques et de voir comment je peux les représenter en musique. Je vais vous dire un peu comment j'ai fait, quelles sont les idées que j'ai prises ici et comment je fais pour les représenter. Et on verra après qu'il y a évidemment des problèmes qui surgissent et qui ne pourraient, qu'on ne peut en fait pas du tout éviter, mais qui sont des problèmes pour moi musicalement intéressants. Cette pièce est inspirée de la partie, l'idée mathématique derrière cette pièce, c'est celle d'intégration. Je me suis inspiré de l'intégrale de Riemann, qui est une intégration toute simple, qui a en fait deux significations en mathématiques, qui se rejoignent justement. C'est là tout l'intérêt du théorème fondamental de l'analyse. L'intégrale de Riemann sert à calculer, au départ, la surface qu'il y a entre la courbe qui est le graphe d'une fonction et l'axe des abscisses, d'un côté, ça nous permet de calculer une surface, et d'un autre côté, l'intégration nous permet de trouver une fonction dont la dérivée est notre fonction de départ. Donc c'est l'opération inverse de la dérivation. La dérivation, c'est ce qui nous sert, entre autres, en physique, à calculer la vitesse de déplacement d'un point. C'est ce qui nous permet, en fait, en général, de connaître un taux de variation. La dérivée est un taux de variation, l'obtention d'un taux de variation. L'intégration est donc l'opération inverse de cela. On peut dire que, d'une certaine façon, la dérivation, si on regarde graphiquement ce qui se passe avec une fonction quand on la dérive, c'est une espèce d'aplatissement de la fonction. On lime, quand une fonction est dérivable, elle fait des courbes plutôt douces, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de coupure, j'essaie de prendre un vocabulaire non mathématicien. Il n'y a pas de singularité, en quelque sorte, sur le graphe d'une fonction qui est dérivable. Donc, l'intégration, c'est trouver une fonction dont la dérivée est celle qu'on veut, donc qui est une fonction qui est dérivable, donc un peu lisser le dessin de la fonction, le dessin du graphe de la fonction qu'on a. Voilà, ce sont ces deux idées de l'intégration. Le calcul d'une surface et l'obtention d'une autre fonction dont la dérivée est celle du point de départ. Comment fonctionne l'intégration de Riemann? C'est très simple. On a le graphe d'une fonction. Je fais un petit dessin. On a le graphe d'une fonction quelconque. On choisit de l'intégrer sur un certain intervalle. Après, ça se généralise sur toute la droite, si on veut. Et ce que propose Riemann pour faire l'intégration, en visant d'abord à calculer la surface qui est sous cette courbe et qui est entre cette courbe et l'axe, donc cette surface-là, il divise l'intervalle sur lequel on intègre en plusieurs parties, et on va calculer en fait des surfaces qu'on connaît déjà, des surfaces de rectangle. Ça, c'est le premier pas pour l'intégrale de Riemann. On fait une subdivision de l'intervalle sur lequel on intègre, et cette division, on l'appelle une partition de cet intervalle. On voit les hauteurs des rectangles jusqu'à là, et on somme les surfaces de ce rectangle. Pourquoi ? Parce que calculer la surface d'un rectangle, c'est facile. Tandis que calculer la surface d'une courbe, c'est pas facile. C'est pour ça que vient l'outil. Bien, et pour ça, avec une partition, on a une première approximation de cette surface, et plus on raffine la partition, mieux, meilleure est l'approximation. Et ensuite, on démontre en fait que si on fait une approximation de cette surface par en dessous et par en dessus, les deux convergent, lorsque la fonction est intégrable, les deux convergent vers un seul nombre qui est cette surface-là. Donc l'idée ensuite est de raffiner, de diviser chacun de ces intervalles encore en deux ou en trois, en deux, et d'avoir une approximation meilleure. Etc. Ça, c'est l'idée géométrique, l'idée pour le calcul des surfaces de l'intégrale de Riemann. Et ce que j'ai voulu faire ici, c'est de représenter cette idée-là en choisissant un intervalle que je vais partitionner. Alors, l'idée de représentation a été très simple. J'ai pris, comme en mathématiques, on prend un intervalle sur lequel on va appliquer une fonction, et on va partitionner cet intervalle. On va prendre des subdivisions, et après on va faire en fait des mesures dessus. Alors, quel est l'intervalle que j'ai pris et ça, c'est vraiment une transposition qui n'est pas dictée par l'idée mathématique derrière, c'est un choix compositionnel. J'ai pris le registre extrême aigu du violon, comme on l'a pu l'entendre, évidemment. Et sur ce registre extrême aigu du violon, j'ai voulu faire cette partition. Je l'ai divisé en plusieurs points et j'ai voulu ensuite resserrer ces points-là. Donc c'est pour ça qu'on a toujours, par ces modes de jeu en notes effleurées ou en jouant sur des gestes qui vont sous le tas, sous le ponticello, en jouant trémolo sous le ponticello ou encore ici avec des harmoniques. On a donc ces effets de notes très très aiguës. Et donc, en fait, tout ce que fait le violon, presque tout ce que fait le violon, c'est de définir des points ou des régions sur cet intervalle qui est le registre extrême aigu du violon. On remarquera, premier problème, que le registre extrême aigu du violon, c'est pas aussi bien défini qu'un intervalle en mathématiques. Surtout que l'intervalle de Riemann, comme ça, il se définit d'abord sur un intervalle fermé, c'est-à-dire dont on connaît les extrêmes et dont on prend les extrêmes. Or, le registre le plus aigu du violon, non seulement on ne sait pas où il commence, mais ça je pourrais le dire, ça va être à partir de ce do aussi, mais on ne sait surtout pas où il termine. Et c'est aussi un peu un jeu que je fais là-dedans. On peut toujours aller plus aigu sur un violon. Si on dit à un violoniste, joue-moi la note la plus aiguë que tu peux, ben, je suis sûr que je peux lui faire jouer une note plus aiguë une seconde après, de pousser un peu le doigt, ou de faire une harmonique dessus, ou ainsi de suite. Mais je reviendrai sur ces problèmes d'adaptation, de traduction ensuite, parce que ce sont eux les problèmes qui sont porteurs de forme pour moi dans cette approche. Donc l'intervalle que j'ai voulu prendre, c'était celui-là, le registre extrême aigu du violon, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Et évidemment, il fallait, pour reprendre encore cette idée-là, intégrer une fonction dessus. Et la fonction que j'ai prise, elle est tout simple, on peut à peine appeler ça une fonction. L'idée était, en simplifiant énormément l'idée d'une fonction, parce que c'est une fonction appliquée sur un intervalle, c'est j'associe à chaque point ou à chaque partie de cet intervalle quelque chose. J'associe à chaque point d'intervalle, à chaque nombre ici, un nombre là. C'est vraiment une fonction, c'est une association. À chaque point, j'associe un autre. J'associe pas deux points à chacun d'ici. Chacun de ceux-là est associé à quelque chose. Voilà. Et à quoi je voulais les associer ? J'ai pris simplement un rythme de gigue, tout simple. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qui est dans cette première mesure-là. Il est aussi ici. C'est ça. Quand je pointais, c'est un rythme en 6-8. Il est explicitement mis dans ces deux premières mesures-là. Et ensuite, il est varié. Mais bon, il est varié, on le retrouve presque toujours. Donc en fait, voilà, ce que j'ai fait, c'est d'avoir comme décor, en quelque sorte, pour représenter cette idée mathématique, un intervalle, le registre extrême aigu du violon, une fonction que j'applique dessus, ce rythme-là, avec, bien sûr, de toutes petites variations. À la rigueur, j'aurais pu construire cette pièce toujours avec le même rythme, tan, 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 tan. En le faisant passer un peu partout. Pour des raisons musicales, évidemment, j'ai voulu varier un petit peu ce rythme-là. Mais si on regarde de près, le rythme n'est pas tellement varié, n'est pas si varié que ça. Déjà, ce que sur cette demi-page, on voit qu'il n'y a pas énormément de variations sur le rythme. Et donc, c'est ça. Toute la deuxième partie de la pièce, qui commence en fait à partir d'ici, la dernière ligne de la première page, presque tout entière, cette deuxième partie-là, est l'application de cette fonction sur mon intervalle qui est quadrillé, qui est de plus en plus que j'explore dans des morceaux de plus en plus fin, rapproché, et qui finissent par couvrir en fait tout l'intervalle. Alors, si la façon de raffiner cette partition, en fait, puisque l'idée de l'intervalle de Riemann, c'est de partir d'une partition et ensuite de la raffiner indéfiniment, quand je commence à utiliser, la première chose qu'on entend avec le rythme clair, ce rythme clair de Gigue, c'est ceci. On a donc des hauteurs bien définies, le violoniste ne joue que des harmoniques naturelles, et on entend un do dièse avec un si, ensuite un la avec un si avec un do dièse, et le la avec un sol dièse tout en haut. Ce sont des notes bien définies, même si elles sont très aiguës, on a une hauteur chacune. Et je reprends ce genre d'effet où on reconnaît les notes assez souvent. Là, les notes sont toujours là. Un premier raffinement de cette division de l'espace extrême aigu, bien sûr, pour arriver dans les extrêmes aigus du violon, la façon la plus immédiate, c'est soit d'aller avec la main extrêmement haut, soit pour dépasser ça directement les harmoniques. Et c'est ce qu'on fait. Donc très facilement avec des harmoniques, on peut arriver à cette tessiture-là pour le violon qui, en note réelle, est nettement plus inconfortable. Pour aller au-delà de cette partition, de cet intervalle extrême aigu, de cette région extrême aiguë du violon, j'ai rajouté des trilles en harmonique. Donc là-dessus, sur quelque chose comme ceci, ou ces trilles-là, on a en fait, ici par exemple, une harmonique naturelle, des harmoniques naturelles sur les deux premières cordes, et la corde du dessous qui trille entre une harmonique naturelle et une autre. Donc on a en fait, comme résultat, quelque chose qui serait de l'ordre... Je demande à l'instrumentiste de ne pas simplement faire un tri entre les deux harmoniques, il n'oscille pas entre une harmonique et une autre, mais il maintient une position et il rajoute un autre doigt. Donc en fait, l'harmonie qu'on entend là, si voilà, là où est la petite main, on a un écrit un ré et un la, et le ré tri avec un mi. Autant le ré que le mi sont les harmoniques de la deuxième corde du violon, les harmoniques naturelles de la deuxième corde du violon qui est un la. Si on jouait que ces harmoniques-là, on aurait à l'écoute un la, lorsqu'on joue le ré, un la deux octaves au-dessus de la corde à vide, puis un mi, une octave et demie au-dessus de la corde à vide. Donc ça ferait un saut assez grand. Si je ne jouais que ces deux harmoniques-là, mais en maintenant la position, et là c'est une question de jeu instrumental, de technique de jeu que je demande à l'instrumentiste, on a en fait des notes, le mi trié sur le ré maintenu en position, fait en fait une oscillation sur ce ré, sur ce la qu'on entend, très aigu, qui vient en fait le perturber. Donc on a quelque chose de très rapproché ici, entre ces notes. Et c'est ce qu'on entend dans les trilles. On pourra mettre un exemple plus tard. Donc avec ces trilles-là, j'arrive en fait à... Si j'avais au début qu'avec les harmoniques, avec les notes les harmoniques, dont les résultats sont une note réelle, si j'avais en quelque sorte ça, j'ai une note ici, une note là-bas, une note là-bas, même si elles sont proches, j'ai quand même un ton entier entre elles, ou au mieux un demi-ton, mais en général avec les harmoniques un ton, ou une septième majeure. Avec les trilles, j'arrive à avoir quelque chose de plus petit, parce que je pars vraiment dans l'extrême aigu de la série harmonique de la première corde, de la deuxième corde du violon. Donc j'ai des trucs beaucoup plus rapprochés. Donc deuxième étape du raffinement de ma partition. Troisième étape du raffinement de ma partition, je prends carrément des positions sur le violon qui ne sont pas des positions d'harmonique naturelle, celles qu'on recense comme des positions d'harmonique naturelle, comme celle-ci par exemple. Là, à la rigueur, c'est encore une harmonique naturelle, mais disons, celle-là, au début de la deuxième ligne, ce do dièse en bas sur la quatrième corde, ainsi que ce ré dièse sur la quatrième corde, ce ne sont pas des positions d'harmonique naturelle du violon. En général, les positions sur les cordes, les positions d'harmonie naturelle les plus utilisées sont l'octave à la moitié de la corde, la quinte au tiers de la corde, on la retrouve à l'autre tiers de l'accord, l'harmonique de quarte qui sonne deux octaves au-dessus, on le trouve au quart de la corde, de tierce majeure à un cinquième de la corde, et à la rigueur de tierce mineure à un sixième de la corde. Déjà, l'harmonique de tierce mineure qui sonne aisément que sur la contrebasse, où on a beaucoup de place, sur le violon, c'est beaucoup moins. moins aisée. Donc, toute autre position que je jouerais sans presser sur la corde, que je joue en effleurant la corde, ne me donne pas ce qu'on appelle une harmonique naturelle. Mais, par la physique, par la mécanique du violon, on ne peut obtenir en fait que des harmoniques naturelles. En fait, poser le doigt, et là je fais une petite parenthèse de mécanique de l'instrument, poser le doigt sur la corde de l'instrument empêche que ce point-là vibre. Donc je force la corde à vibrer sur un autre mode de vibration, qui est en général un harmonique. Sur ceux que je citais, la moitié, le tiers, le quart de la corde, ces modes-là sont assez stables. Et la taille des morceaux de corde qui vibrent est suffisamment grande pour que la taille de mon doigt sur la corde du violon ne vienne pas gêner tout ça. Si j'essaie de faire des divisions de la corde en des tout petits morceaux, en fait la taille de mon doigt va commencer à importer. Et la position de l'archet sur la corde va commencer à importer aussi. Donc, si je me mets sur une position comme une carte augmentée au-dessus de la corde à vide, comme ici, une carte augmentée au-dessus de la corde à vide, ou une sixième mineure au-dessus de la corde à vide, la quatrième corde, comme ici pour le violon, en fait, et je joue en effleurant ça de la main gauche, je vais obtenir ce qui ne peut être évidemment que des harmoniques naturelles, mais je ne suis pas sûr de quelle harmonie je vais obtenir, parce qu'un déplacement très très petit de l'ordre d'un demi-millimètre du doigt va faire changer la note, et en plus, si je lui dis de jouer, si je lui dis au violoniste de jouer en trémolo, la position de l'archet va être constamment en train de changer un tout petit peu. Donc ce que j'ai avec cet effet-là, c'est en fait ce qui pour moi, on peut appeler un nuage d'harmonique dans le registre extrême aigu. On a quelque chose qui articule très rapide à cause du trémolo, et on a plusieurs fois, des tas de fois, des notes qui en fait ne sont pas les mêmes. Comme c'est articulé très rapide, tout ça est intégré par notre oreille, et on a vraiment une espèce de cluster dans l'extrême aigu du violon. Et là, donc, phase finale de raffinement, la partition s'intervalle. On a des notes qui sont extrêmement rapprochées à la fin. Bien. Et bien, sur tout ça, j'applique j'applique encore le rythme. On pourrait dire que le seul pas au-delà de cette division par le trémolo avec des notes très très rapprochées dans l'aigu, ce serait quelque chose qui passe continuellement sur toutes les hauteurs, et c'est ce que fait un glissando. Le glissando de l'harmonique artificielle de la voix supérieure ici, ou d'autres glissandi. Mais là, je prends ça avec des pincettes, même moi, parce qu'en fait, quand on entend un glissando, on entend plutôt une note seule qui se déplace que un morceau de tessiture qui est couvert, comme quand on entend un cluster, soit au piano, soit justement comme ça, au violon. Donc là, c'est une... Et je vais revenir aussi là-dessus. C'est encore une déformation, en quelque sorte, de l'objet mathématique dans la musique. Je fais une pause sur la représentation que j'ai faite pour la première partie de la pièce, qui est en fait, quand je parle d'intégration au sens de fonction inverse de la dérivation, pour aborder des problèmes qui sont ceux justement centraux de ma discussion ici. On aura remarqué évidemment qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre mathématique tout de suite quand j'essaie de faire ce passage-là. On peut dire, mais attends, tu n'as absolument pas représenté une intégration là-dedans. Tu n'as absolument rien à voir. Tu n'as pas représenté une partition d'un intervalle là-dedans, encore moins l'intégration d'une fonction. Certes. Pourquoi ? D'abord, comme j'avais dit, l'intégration de Riemann s'opère sur un intervalle fermé. Ici, on n'a pas vraiment un intervalle fermé. Ensuite, il faudrait que ma fonction soit définie sur tout cet intervalle. Or, évidemment, c'est une fonction discrète, c'est un rythme. Elle ne peut s'appliquer que sur des points de cet intervalle à la fois. Donc, théoriquement, je ne pourrais pas couvrir tout mon intervalle avec toute cette fonction. Sauf si ma fonction était une seule note, et je fais un glissando sur tout l'intervalle. Ben là, j'ai couvert. C'est une fonction toute bête comme ça. Si j'avais fait ça, ben oui, ça c'est une façon de couvrir très simplement, avec une fonction toute simple, le registre extrême aigu du violon. Mais bon, musicalement, ça ne m'intéressait pas de faire ça. Ou de faire et ensuite plus serré, et ensuite un glissando, un tremolo. Musicalement, ça ne m'intéressait pas. Et là, on tombe justement sur le point crucial. Je prends comme point de départ une idée mathématique, qui n'est pas une idée mathématique très complexe, mais qui est une idée mathématique qui a sa consistance dans le domaine des maths, c'est-à-dire qu'on peut demander à un mathématicien, n'importe quel mathématicien sera capable de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intégration, à quoi ça sert, à quoi il faut faire attention quand on l'a fait, attention, toutes les fonctions ne sont pas intégrables, qu'est-ce qui se passe quand on a une fonction que vous n'exprimez pas, etc. Quelles sont les conditions pour intégrer, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas des mathématiques que je cherche à faire. Je cherche à faire de la musique. Donc la consistance qui pour moi est importante, c'est une consistance musicale. Je cherche à prendre des éléments des mathématiques et je regarde les relations qu'ils ont entre eux. Donc je prends comme objet à représenter une idée mathématique. L'intégration, très bien, de Riemann. Je prends l'intégration de Riemann. Ensuite, je vais limer beaucoup d'aspects pour pouvoir représenter cela. Comme on l'a fait pour le son dans la partition, on enlève les transitions d'attaque, on enlève les micro-durées, on enlève les instabilités de hauteur, tout ça, et on prend ce qui nous intéresse. Mais là aussi, j'ai pris ce qui m'intéressait, moi. Ce que je savais à peu près comment je voulais représenter. Et dont, en plus, la représentation avait pour moi un intérêt musical. L'orientation de tout ça est toujours l'intérêt musical. Donc, j'observe mon objet à représenter, je vois des relations entre certaines de ces parties, et ce que j'essaie de faire, en fait, dans la musique, c'est de reprendre dans un espace musical, dans l'œuvre musicale, de restituer ces relations-là, les relations que je trouve entre ces objets-là. C'est un peu comme si je passais... C'est un peu comme si je faisais ça, et avec ça je prends un petit risque, évidemment, en le faisant. On a, au départ, disons, deux aspects de mon objet de départ, et je les représente chacun par quelque chose dans mon espace de représentation. Et j'observe qu'ici, il y a un rapport, une relation entre ces objets. Il y a une fonction ici. Quelque chose qui les met en rapport. Et ce que j'essaie de faire, c'est de construire cet objet qui représente ceci, qui représente celui-là, de telle façon que j'ai ici quelque chose qui ressemblerait à ça. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Ça, c'est ce que j'essaie de faire. En fait, en général, dans toutes mes pièces, quand je prends comme thème un objet, une idée mathématique, ce que j'essaie de faire, c'est ça, pour le plus de propriétés possible. Alors, comme on a vu, les problèmes qui surgissent, c'est que parfois, déjà, ce passage-là, il est mathématiquement inconsistant, et surtout, ce que j'ai ici, parfois je le retrouve ici, parfois je ne le retrouve pas du tout, parfois je retrouve complètement autre chose. Et parfois, je pourrais même retrouver ça, mais je n'ai pas envie parce que ça ne m'intéresse pas musicalement. On peut faire ça. Mais bon... Si ça ne m'intéresse pas musicalement, je vais peut-être chercher à représenter d'autres objets. Mais ça peut arriver que, justement, je n'ai pas que ces objets-là, j'en ai plein d'autres, et j'ai des rapports qui sont plus complexes. Quoi. Et en fait, là, voilà, etc. Et tout ça m'intéresse, et encore d'autres avec des E, tout ça m'intéresse beaucoup, mais j'arrive pas. Enfin, si je passais tout ça correctement, j'aurais quelque chose ici, un phi 3 là, qui musicalement ne m'intéresse pas. Donc parfois je peux me permettre d'inclure, non seulement dans ces passages directs, mais aussi dans ces images là, je peux inclure ce qui sont en fait des erreurs mathématiques, mais pour des raisons musicales. C'est ce que fait notre ami Yannis Xenakis tout le temps. Quand on dit que Xenakis fait des erreurs de maths dans ses partitions, évidemment parce qu'il ne fait pas de maths. C'est pas le propos n'est pas de faire en sorte qu'on puisse entendre la formule de Poisson dans la musique. Mon propos n'est pas du tout qu'on puisse entendre l'intégration de Riemann et qu'on puisse dire « Ah oui, effectivement, cette fonction-là, du rythme de la gigue, elle est intégrable sur le registre rythmique du violon. » Pas du tout. Mon but, et évidemment, c'est ce que je suppose est le but de Xenakis et de tout compositeur aussi, c'est de profiter des rapports que je trouve dans l'objet que je veux représenter, profiter de ces rapports-là pour donner plus à entendre dans la musique. C'est-à-dire, ce sont des rapports qui, pour moi, sont, je prends l'expression de Horacio Fagion, morphophoriques. Ils sont générateurs de formes. Un genre de passage des maths vers la musique qui a historiquement beaucoup été fait, je coupe un peu l'image. On fera un genre de passage qui a beaucoup été fait entre maths et musique, c'était à peu près celui-là, mais en s'occupant simplement des passages entre A et alpha, B et bêta, C et gamma, etc. On peut faire un passage des maths vers la musique en représentant directement et avec assez de précision des objets des mathématiques dans la musique, et en supposant simplement que si j'ai fait la représentation, alors tous les rapports qu'il y avait entre ces objets du côté des maths, eh ben je vais les retrouver du côté de la musique. Donc j'importe les relations qui sont présentes en mathématiques du côté de la musique. C'est ce que fait parfois que c'est là qui se fait ça, mais c'est ce que fait surtout un compositeur américain qui s'appelle Tom Johnson, qui a une approche des mathématiques une approche de l'usage des maths en musique assez radicale. Il arrive au point de dire en fait que les mathématiques c'est un cas particulier de la musique. Et lui prend directement des représentations entre un nombre ou un chiffre et une note, un autre chiffre, une autre note, et les relations qu'il y a entre ces chiffres, il les retrouve à l'identique en fait entre les notes qu'il a mis sur sa partition. Ça c'est une façon de procéder et qui pour moi comporte quelques risques, à savoir justement ce que je disais, on peut tomber sur des rapports entre des objets musicaux qui ne sont pas musicalement pertinents, qui sont musicalement maladroits, parce qu'on a importé directement une consistance mathématique, on a transcrit en quelque sorte une consistance mathématique vers une consistance musicale. C'est une chose qui, selon moi, il faut éviter de faire. Il faut par contre construire ces deux choses. C'est pour ça que je parle de représentation et pas simplement d'une application des maths en musique, parce que tout ce qui est de ce côté-ci, tout ce qui est du côté musical, va être construit. Rien n'est en fait donné par la mathématique, tout cela est construit. D'où, pour moi, l'intérêt de cette démarche. J'avais dit de mon raisonnement que je veux entamer la discussion sur la faisabilité d'un tel projet et surtout sur la pertinence d'un tel projet. Alors, la faisabilité, en fait, c'est une discussion sur laquelle on peut passer très vite. Bien sûr que c'est faisable, la preuve, je l'ai fait. Et d'autres l'ont fait aussi avant moi. Voilà. Okay. Mais, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? Pourquoi je me servirais d'une idée mathématique comme l'intégration de Riemann ou comme le principe de Cavalieri pour une autre pièce que j'ai prise ou pour dire toute fonction dérivable est continue ou la droite est un espace métrique complet? Ce sont des titres de mes œuvres. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça si, au final, je le revendique, je n'ai pas comme intention qu'on reconnaisse dans mon œuvre forcément ces idées mathématiques. Je n'essaie pas de faire une musique à programme. La démarche de départ est un peu comme de celle de la musique à programme. Comme Vivaldi a pris les quatre saisons comme sujet de son œuvre, comme Strauss a pris Don Quichotte comme sujet de son œuvre, ben moi, je peux prendre le théorème de Gelfand-Schneider, je peux prendre le fait que la droite est un espace métrique complet pour parler de ça. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai que la droite est un espace métrique complet et que ça m'intéresse et que je trouve ça beau. Donc je vais en parler. Mais justement, je ne veux pas faire de musique à programme, je n'ai pas envie, je n'exige pas que l'auditeur de la musique reconnaisse dans la musique ces éléments-là. Alors la question se repose de plus belle. Mais alors, pourquoi ça? Est-ce que ce n'est qu'un prétexte? Est-ce que tu n'aurais pas pu aboutir à la même œuvre autrement? Et la réponse que je peux donner, c'est que moi, personnellement, non. Je n'aurais pas pu aboutir à la même œuvre autrement. Je n'aurais pas pu avoir ces mêmes idées d'occupation du registre extrême aigu du violon de la même façon. Et en plus, bon, ça c'est le premier point, et en plus, je crois, je soutiens, que en profitant de toute la richesse des rapports qu'il y a entre les objets mathématiques, dans une idée mathématique, on peut, pour prendre une définition très à la légère, on peut dire qu'une idée mathématique, c'est en fait un ensemble d'objets mathématiques avec les rapports entre eux et avec les rapports qu'ils ont avec d'autres parties des mathématiques. On peut dire ça assez simplement. Ce qui pour moi est intéressant, c'est de profiter de tout cet ensemble de rapports, parce que ça, c'est en quelque sorte du matériau brut. Donc ça me suggère des relations entre ces objets. Donc quand je veux représenter une idée mathématique en musique, j'ai non seulement les objets mathématiques eux-mêmes à représenter. Si je parle d'intégration, c'est un intervalle, une fonction, la valeur d'une fonction. Si je parle de la droite, d'un espace métrique complet, je peux te représenter la droite, qu'est-ce qu'un espace complet, les séries convergentes, etc. Je peux vous le représenter tout ça. Mais en plus, j'ai des rapports entre ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire être près d'eux ou être de plus en plus proche d'eux dans le cas d'une série convergente dans un espace métrique complet? Comment est-ce que je peux mettre en relation dérivabilité et partition d'intervalle, ou intégration et partition d'intervalle? Comment je peux mettre, par exemple dans une autre pièce, en relation l'idée d'une topologie faible, qui est un terme d'analyse différentielle, comment je peux mettre en relation l'idée de topologie faible avec l'idée d'homotopie, qui apparaît aussi dans la pièce qui s'appelle topologie faible? Topologie faible et homotopie sont des trucs qui sont assez distants en mathématiques, mais pour un mathématicien, on peut faire le chemin de l'un à l'autre. On sait comment mettre en rapport ces deux trucs-là, comment je peux me servir d'homotopie dans le cadre de... etc. Donc, c'est un ensemble, en fait, c'est tout un monde déjà établi, c'est en fait presque un langage dans les mathématiques, c'est tout un ensemble de symboles très bien organisés, avec une syntaxe très précise, avec des règles, des rapports qui existent déjà, et qui pour moi, et là c'est encore une appréciation personnelle, est très beau, est vraiment porteur d'une beauté esthétique unique et incomparable. Il m'est intéressant de me servir de ça comme source d'inspiration, en fait, pour faire de la musique. Je peux, je m'intéresse à prendre le plus de rapports possible pour en faire des rapports musicaux. Donc je construis des rapports entre objets, entre entités musicales, inspirées par des objets, des entités mathématiques. Le but de tout ça, évidemment, c'est de, au final, construire une œuvre musicale qui soit la plus riche possible. Une œuvre musicale qui donne le plus possible à entendre. En d'autres mots, une œuvre musicale qui soit abordable, qu'on puisse attraper par la plus grande partie du côté possible. Et là, on entre dans une discussion qui est purement du compositeur, c'est une discussion vraiment esthétique, c'est qu'est-ce que je peux offrir comme compositeur à l'auditeur? Qu'est-ce que je donne effectivement à entendre? Je donne à entendre une pièce musicale qui, quand elle est écoutée pour la première fois, ne peut qu'être découverte au fur et à mesure. Donc l'auditeur, effectivement, s'il n'a pas entendu ma pièce, il a pu lire tout ce qu'il veut dessus, les notes de programme ou il a pu lire ma thèse, il ne sait rien de ce qui va se passer. L'auditeur ne sait rien de ce qui va se passer dans ma pièce. Surtout aujourd'hui, où on peut supposer que je ne compose pas dans un système qui est connu de tous. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, on pouvait, ouais, je pense à Richard Strauss, il pouvait supposer que le public connaissait déjà le système qu'il utilise, le système tonal. Jusqu'au XIXe siècle, on pouvait vraiment supposer ça. Donc, si je fais une cadence parfaite, juste avant de conclure la cadence, je sais que le public s'attend à ce qui vient après. Donc je peux jouer sur ça, je peux conforter le public dans son attente, ou je peux le décevoir et dire « Ah, je ne fais pas cette cadence-là, j'en fais une autre. » Et je mène ainsi l'attention de mon public. Quand je ne dispose plus d'un système aussi partagé que celui-là, il faut que le système que j'utilise, si j'en utilise un, il faut qu'il soit immanent, qu'il émerge, qu'il soit perceptible directement dans l'œuvre. Donc il faut que je donne tous les points de repère du fonctionnement de mon œuvre à l'auditeur pour qu'il puisse s'en saisir et qu'il puisse donc comprendre, accompagner mon discours musical. Et au fond, ce n'est que pour ça que je me sers des mathématiques, moi personnellement, plutôt que de la nature, la littérature, la philosophie, etc. Parce que les mathématiques m'offrent à moi cette richesse de points de repère. Comme tout est articulé dans les mathématiques, on peut passer de n'importe quelle branche de mathématiques à n'importe quelle autre par un chemin plus long ou plus court. Cette consistance, vraiment au sens logique, cette cohérence des mathématiques, est pour moi vraiment, ne peut qu'être porteuse de forme et surtout d'intelligibilité pour la musique. Si je me sers des mathématiques comme point de départ, c'est pour pouvoir construire au mieux une œuvre qui soit intelligible. C'est au fond l'intelligibilité musicale et ensuite la richesse musicale que je cherche en représentant les mathématiques. Je vois que j'ai largement dépassé mon temps. J'aimerais quand même qu'on écoute encore un peu quelque chose. On peut écouter justement « La droite est un espace métrique complet ». Oui, parce que c'est court. Je vais mettre la partition à l'écran aussi. Alors, donc, pour Lémaon, la pièce qu'on a entendue tout à l'heure, cette pièce qu'on vient d'entendre pour violon seul, le but était celui-là aussi. Donc, la première partie de l'œuvre, celle dont je n'ai pas trop parlé, et qui est rythmiquement plus simple, c'est justement celle de l'intégration, où je lisse les contours de la fonction. Comme je disais, l'intégration sert aussi à lisser, en quelque sorte, entre guillemets, une fonction. Je lisse les contours de ma fonction rythmique. Ici, on retrouve les rythmes simplifiés par des liaisons ou simplement par des étirements rythmiques, comme le tout début de l'œuvre, tout en couvrant, encore une fois, cet intervalle du registre extrême aigu du violon. Arrête de se passer mettre complète. Très bien. Oui, là aussi, encore une fois, c'est relativement lisible. C'est un long écran. Très bien. Alors, pour la pièce pour violon, justement, la première partie de la pièce a à voir avec l'intégration comme inverse de la dérivée, la deuxième partie a à voir avec l'intégration comme calcul, comme mesure d'une surface. Normalement, quand on fait l'intégration de Riemann, on commence par faire la partition d'intervalle pour ensuite arriver à l'intégrale et donc à la fonction dont la dérivée est celle qu'on avait au départ. Si je le fais à l'envers, dans l'autre ordre chronologique, dans la pièce, c'est encore une fois parce que musicalement, c'est cette orientation-là qui m'intéressait. Donc je me permets cette liberté de changer ou de carrément de casser certains des rapports qui existent entre mes objets mathématiques parce qu'encore une fois, je vise à une richesse et une cohérence, une consistance au sens logique, c'est-à-dire une absence de contradiction musicale. Et c'est en fait toujours le cas. En fait, toute utilisation intéressante des mathématiques en musique ou à partir de la musique ne doit viser qu'à ça. En fait, on a historiquement très très peu d'exemples de théories de la musique ou de théories de discours à l'intérieur de la musique qui contribuent directement aux mathématiques, puisque l'intérêt central est toujours de faire de la musique. Je dis que c'est très rare, parce qu'en fait, je ne connais que deux études de la musique orientées par les mathématiques, des études de la musique, donc qui n'auraient pas pu avoir lieu sans la musique, qui sont directement orientées et inspirées par la musique. Je n'en connais historiquement que deux qui ont effectivement proposé de nouveaux problèmes aux mathématiciens, et c'est celle de Pythagore, au tout début, et un peu plus récemment, celle de Guglielmo Mazzola, qui est une théorie mathématique, effectivement une théorie mathématique de la musique, et qui propose de nouveaux problèmes mathématiques aux mathématiciens. Ces deux théories-là sont globales, elles parlent de la musique en général, elles ne font pas vraiment de représentation de la musique, elles étudient directement la musique à partir des mathématiques. Et ce que fait Guglielmo Mazzola, on pourrait presque dire que c'est plutôt des maths que de la musique, même si c'est des maths qu'il n'aurait jamais pu faire sans partir de la musique. La preuve, c'est qu'il est confronté à de nouveaux problèmes qui n'étaient pas encore formulés en mathématiques. Donc, la musique a servi effectivement de point de départ pour des éléments vraiment nouveaux en mathématiques. Mais c'est plutôt rare. En général, on a vraiment l'accent sur une production musicale. Et c'est aussi mon cas. Alors, écoutons, Arrête est un espace métrique complet. La droite est un espace métrique complet. C'est une pièce pas trop longue, 5 minutes. La droite est un espace métrique complet. Et sur cette pièce-là, ce que j'ai voulu représenter, c'est justement les propriétés d'un espace métrique complet, c'est-à-dire où il y a une certaine famille de séquences où les éléments sont de plus en plus proches les uns des autres, sont en fait des séquences qui convergent. Où, quand on a cette propriété pour toutes les séquences de cette famille, on dit que c'est un espace métrique complet. Voilà, donc il est question dans cette pièce toujours de convergence, de plus en plus. Donc si on voit, c'est assez visible dans la ligne du vibraphone, qui est ici. Le vibraphone fait très souvent ce geste de commencer par des lignes qui sont mélodiquement assez accidentées pour converger vers une seule note. Et il le fait en fait plusieurs fois. Donc je pars toujours d'un, je fais toujours des rapprochements, des convergences. Et en fait, c'est ce que fait, si on se penchait plus longtemps là-dessus, on verra que c'est harmoniquement ce qui se passe aussi. On a des convergences au niveau des spectres qui sont décrits. On a quelque chose qui est moins harmonique, qui va vers quelque chose de plus harmonique, et des intégrations de qualité sonore aussi. Donc on part de modes de jeu qui sont très différents pour tous les instruments, et on arrive, et je cherche donc toujours d'arriver vers une fusion. Et tout ça, c'est une fusion de autant de hauteur que d'harmonie, que de timbre, de résultat des modes de jeu. Et tout ça, bien sûr, repris plusieurs fois au long de la pièce. Une pièce en plusieurs cycles. Je crois que c'est 5, c'est bien compté. Voilà. Je ne m'attarde pas plus, puisque là, il est 18h-10. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser ?
Est-ce que vous avez des questions ?
Des questions, des commentaires ?
Non, pas encore. Moi, j'aurais quelques commentaires. Merci beaucoup. D'abord, on avait déjà eu l'occasion de parler des différences entre ton approche des représentations musicales des mathématiques et notre approche des représentations mathématiques de la musique. Et donc là, c'est très clair ce que tu fais. C'est dommage que François-Nicolas soit pas là, parce qu'on a eu ce matin précisément une discussion à l'ENS autour de ce type de, disons, des théories musiciennes, théories mathématiques, les différences entre... D'ailleurs, tu avais participé aussi au séminaire Momifi,
oui,
à la discussion. Donc là, ça aurait pu se prolonger. En tout cas, moi j'ai une question... Quand tu prends des objets en mathématiques, mm-hmm, tu les interprètes musicalement,
oui.
Tu enchaînes une logique qui est proprement musicale, oui, parce que tu l'as répété plusieurs fois. Il y a peut-être des propriétés en mathématiques qui ne sont pas intéressantes musicalement, donc la logique que tu cherches est une logique
musicienne,
ouais, qui n'est pas descriptive, c'est-à-dire qui ne doit pas nécessairement rendre compte des propriétés mathématiques.
Oui.
C'est-à-dire, si on ferme les yeux, on ne va pas reconnaître qu'il y a des intégrales et des choses comme ça.
Exactement.
Pourtant, elle est logique. C'est-à-dire, elle a une consistance,
oui,
musicale.
Oui.
Alors, est-ce que ça t'est jamais arrivé, quand tu fais cette opération, d'aboutir à une logique ratée? C'était une pièce ratée. Qu'est-ce que c'est qu'une pièce ratée au moment où tu fais ces passages? Qu'est-ce que ça serait, une pièce dans laquelle la logique musicale ne marcherait pas?
Ben, on peut poser la question pour n'importe quelle pièce. Qu'est-ce que c'est, une pièce qui ne marche pas musicalement?
L'opération est très singulière. Ce que tu fais, c'est...
Oui, bien sûr. Mais au fond, en fait, je crois qu'il faut juger si la pièce, entre guillemets, marche ou ne marche pas, comme on jugerait toute autre pièce. C'est-à-dire, est-ce que musicalement, ce discours-là se tient? Est-ce que c'est un discours musical qui tient la route? C'est-à-dire, rien dans ma démarche compositionnelle ne peut justifier un résultat qui serait musicalement inconsistant. On peut dire, ça sonne pas bien, là, la musique est tout à fait... disons, c'est arrivé un peu pour une pièce que j'ai écrite pour 2 trombones et 3 chanteurs. La pièce marche en quelque sorte, mais je n'ai pas obtenu le résultat sonore que je voulais, qui était d'une grande continuité, une grande fluidité. Tout est assez haché. Donc on peut dire, mais là, ta musique, elle ne marche pas. Tu as des phrases musicales dans les chanteurs qui devraient s'enchaîner mieux avec les trombones, et là, ils ne s'enchaînent pas. Rien de ce que j'ai pu faire auparavant comme formalisation, ou comme pensée, ou comme traduction, ou comme adaptation d'une idée musicale, ne sert comme excuse, en quelque sorte, ne sert à justifier ça. Non, mais en fait, tu vois, là, mais j'ai très bien fait le passage entre les maths et musique, donc c'est bien. Non, ça ne peut pas. Donc, pour répondre à ta question, une pièce marche ou ne marche pas par des critères exclusivement musicaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une consistance? Est-ce que ce que j'entends au début de la pièce me permet de donner sens à ce qui vient juste après? Je pense toujours à l'écoute de la pièce, à une première écoute de la pièce, et donc au déroulement, à l'insertion dans le temps de tout ce que j'ai pu penser de façon paradigmatique. C'est le passage entre paradigmatique et syntagmatique, tu vois. Paradigmatiquement, on peut organiser des tas de choses, mais il faut se préoccuper. Et c'est là où vraiment, même Guglielmo Marzolo dit qu'il n'y a pas encore une formalisation qui est prête, comment on formalise ce passage-là. Et surtout, pour moi, indépendamment de la formalisation, je pense toujours à la compréhension de la musique dans son déroulement. Donc ce que j'entends au début me donne un genre d'information, me dit quel est l'espace musical dans lequel commence à se déployer cette musique. Cet espace musical, il peut et il va certainement s'agrandir au fil de l'écoute. Par exemple, si on reprend ce qu'on vient d'écouter, arrête espace mettre complète, les premières choses qu'on écoute de la pièce, c'est presque que des souffles très très aigus de l'accordéon. Et bon, donc au début, la pièce n'existe que, si on pense à un objet dans un espace multidimensionnel, la pièce est quelque chose de plutôt très plat ou de très fin, dans un, très presque si dans l'espace c'était une ligne ou un point qu'on voit dans l'espace. Après je peux le faire tourner, on voit, ah en fait c'est pas un point, c'est une ligne que je voyais de devant. Et peut-être je peux le faire pivoter et dire, ah en fait c'est un plan ou c'est juste un morceau de plan. Donc c'est ce déploiement-là, c'est dans ce déploiement-là que je peux voir que je peux juger si la pièce est consistante ou pas. C'est dans son déploiement. De la même façon qu'on le juge pour les pièces du passé. Une fois qu'on accepte, par exemple, le système tonal, comment est-ce que je peux juger qu'une pièce, que telle pièce de Beethoven, pour moi, elle marche mieux que telle autre, que tel passage marche mieux que tel autre. C'est dur quand on parle de Beethoven ou des grands noms comme ça, mais on peut le faire. Je ne sais pas. C'est surtout de cette façon-là, je crois. Comment se déroule la pièce ? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction interne, en fait ? Au fond, c'est ça. C'est de contradiction interne.
La difficulté, c'est de définir vraiment qu'est-ce qu'on entend par logique musicale. Ça,
je pense exactement.
On n'a pas une définition et on n'a pas les outils encore.
Voilà. C'est pour ça que cette approche, c'est pour ça que je pense cette approche, parce qu'il m'intéresse de pouvoir donner le plus possible de points de repère, parce que les outils pour définir ou pour parler simplement, même sans la définir, d'une logique musicale, à mon avis, ils ne peuvent exister que si on a des points de repère phénoméniquement perceptibles dans la musique. C'est-à-dire, au final, on est confronté à un flux sonore dont on doit faire sens. On peut en faire sens de plusieurs façons, évidemment, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans ce flux sonore-là que je puisse mettre en relation avec mes propres classes de repères pour en faire émerger du sens. Et c'est donc ça l'intérêt, c'est de donner une musique qui soit la plus consistante possible, autant que je peux le faire, en espérant que mon genre de consistance est partageable. Et c'est normalement le cas. Je suppose que j'écris de la musique pour des gens qui sont à peu près dans la même culture que moi. Je n'écris pas pour les Kamayuela de Shingu, même si la musique m'intéresse énormément.
Peut-être une question, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou remarques. Oui.
Bon, c'est une réflexion, c'est pas une question. Mm-hmm. C'est par rapport à Xenakis, c'est-à-dire que le modèle chez Xenakis donne lieu à une expressivité musicale, mm-hmm. à un ressenti, qui diffère fondamentalement de votre expression. Même si la mathématisation peut intervenir au niveau de la genèse d'une œuvre. Donc moi, ma question, c'est où est-ce que finalement vous placez l'expressif, où est-ce que vous placez le par rapport au modèle musical qui lui peut générer des formes d'expression extrêmement différentes, parce que votre style, encore une fois, n'a rien à voir avec celui de Xenakis.
Ah non, pas du tout.
Quel est ce mode de rapport à la mathématisation, au modèle mathématique, par rapport à l'expression recherchée, parce que je pense qu'il y a derrière, il y a une recherche esthétique qui est évidente.
Voilà, mais c'est justement ça, c'est la recherche esthétique qui guide en fait ce passage, qui guide ma lecture des objets mathématiques, ma lecture musicale en quelque sorte, des objets mathématiques. On peut dire en quelque sorte que quand on fait une représentation, soit moi, soit Xenakis, soit Grino Mazor, soit n'importe qui, on est en train de construire un pont entre deux disciplines et rien de ce pont-là n'est donné a priori. C'est-à-dire, plus précisément, rien de ce pont-là n'est donné dans l'une ou l'autre des disciplines. Il n'y a rien dans la musique elle-même, si on peut parler de musique elle-même, mais simplifions, il n'y a rien dans dans mon expérience musicale qui me dirait « Ah voilà, ça c'est vraiment le truc à faire pour rapprocher des maths ». Dans la musique encore peut-être parce qu'on hérite de notation, mais dans les maths, il n'y a vraiment pas grand-chose qui me dit « Ça c'est le truc à utiliser pour rapprocher de la musique ». Donc c'est vraiment une construction de toute pièce, de la part de celui qui fait ce passage, donc de ma part, de la part du compositeur. Et je peux, en jetant ces ponts entre les deux disciplines, je peux les rapprocher, je peux en fait, je vois en quelque sorte les frontières de l'une de l'autre, et je peux essayer de faire un pont à là, pour moi c'est plus proche, où je peux les tirer l'une vers l'autre, mais je ne peux jamais vraiment abolir cette distance. Il y a une distance qui est irréductible. Je peux la rendre moindre ou la garder plus large, comme il m'intéresse, mais en fait, elle n'est jamais, elle n'est pas du tout irréductible. Donc, les passages, les façons de faire les passages dépendent du compositeur et ne peuvent être guidées quand on fait de la musique que par un projet esthétique. Si je voulais faire des mathématiques avec ça, comme le fait, même si ce n'est pas que ce qu'il veut faire, mais comme le fait effectivement Guglielmo Mazzola, l'accent sera mis sur d'autres rapprochements entre mathématiques et musique. Vous voyez ? Donc, au fond, c'est mon projet esthétique. Et donc, tous mes a priori et tout l'arbitraire que j'ai et tout ce qui me précède et comment je me mets en relation avec le reste du monde musical, extra-musical, qui va me guider à prendre, par exemple, une partition d'intervalle comme le registre extrême aigu du violon plutôt que comme un piano accordé en huitième de ton, parce qu'on pourrait aussi penser ça. Voilà. Voilà, exactement.
Oui. Tu me demandais si, par exemple, vous avez fait de la musique pour les musiciens vivants et si un violoniste ou un pianiste, vous lui expliquez la fonte mathématique qui a guidé la composition, si le musicien lui-même peut essayer de lui-même faire cette relation et s'il comprend de la théorie des metric spaces, quelque chose comme ça, si ça donne quelque chose qui est supérieur comme expression, quelque chose en performance. In other words, if it makes a better piece, because he knows the mathematics and therefore is able to himself make relations in his own mind which are translated into his own playing.
I wish I could experiment that.
All right, this is my question.
Ouais. En fait, je ne sais pas. Est-ce que je peux vous répondre en français? Oui. Je ne sais pas si ça ferait une différence. Mais en général, je n'explique pas aux musiciens quelle est l'idée mathématique derrière. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets des titres qui font appel aux mathématiques, des titres qui font référence directe aux mathématiques, justement parce que je veux les sortir du contexte. Je pense beaucoup aux œuvres du peintre et sculpteur Bernard Venet, qui a certaines œuvres, des peintures murales, qui ne sont que des expressions mathématiques, des équations tirées de bouquins de mathématiques complètement sortis de contexte et qui sont prises pour leur valeur graphique. Je trouve que c'est joli d'avoir ces parenthèses, ce X, machin. Donc ce que lui fait, c'est évacuer tout sens mathématique et prendre ça comme objet devant lequel on ressent une étrangeté. Parce qu'on reconnaît, mais c'est hors contexte. C'est un peu la démarche du Duchamp. D'une certaine façon, c'est ce que j'essaie de faire avec mes titres. Donc, ce que le musicien sait des mathématiques qu'il a dans mon œuvre, en général, ce n'est que le titre et les associations que lui-même peut faire. Donc, quand je dis « arrête un espace mètre complet », d'abord, ce n'est pas sûr qu'il comprenne le portugais. Mais là, le titre, en général, je peux le traduire. Et ce n'est pas sûr du tout qu'il sache qu'est-ce que c'est qu'un espace métrique, encore moins un espace métrique complet. Et dans une autre pièce, topologie faible, j'ai joué aussi sur le fait que topologie est un mot qu'on a l'impression, hors des mathématiques, de pouvoir comprendre plus facilement qu'intégration, dérivation, parce qu'on pense à topographie, on pense à paysage, etc. Et qu'est-ce que pourrait être une topologie faible, weak? Topology or a weak topography, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Donc ça suscite des images. Ceci étant dit, je n'ai pas souvent eu l'occasion d'avoir une pièce jouée par plusieurs ensembles différents. Quelques-unes de mes pièces ont été jouées par des ensembles différents et je n'ai pas pensé à faire l'expérience de raconter à l'un d'eux et pas à l'autre qu'est-ce qui était derrière la pièce. Donc c'est une expérience qu'il faudrait faire. If you play the violin, I'll gladly hear your interpretation. Perfect. Bien, oui.
Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques?
Est-ce que ce sont des représentations mathématiques dans la musique ou est-ce que ce sont des applications ou même des transpositions?
ce sont pour moi des représentations. Et ce sont des représentations musicales. Des mathématiques. Ce ne sont pas des représentations mathématiques, justement.
Oui, ça, c'est la grande différence.
Voilà, ce sont des représentations musicales. Et je ne crois pas que ce soit des applications, même si parfois je me sers d'applications directes. C'est-à-dire, et ça, c'est une précision de vocabulaire, simplement. Quand je dis application, je pense vraiment à quelque chose qu'on comprend en mathématiques et qu'on passe aussi rigidement que possible, en essayant de garder la rigidité, vers la musique. Et où on importe les rapports, la consistance de l'un vers l'autre. C'est-à-dire, une application, c'est vraiment prendre la série de Fibonacci et de faire des rythmes basés là-dessus. C'est de prendre une inversion, l'idée d'inversion ou de symétrie sur la partition par rapport à une ligne, qu'elle soit horizontale ou en biais, et d'appliquer ça. C'est une application. Une représentation, c'est de prendre l'idée de symétrie ou l'idée de rapprochement et de dire comment je vais faire l'idée de rapprochement. Ben ça, on peut... Il y a un exemple. Dans une pièce qu'on n'a pas entendue qui s'appelle « Toute fonction dérivable et continue », il était question très souvent de convergence, encore une fois. Un peu comme dans celle qu'on vient d'entendre, mais vraiment d'oscillation autour d'un point et qui se rapproche. Donc, on peut avoir des oscillations de hauteur, comme ça, très simplement, des oscillations de timbre, c'est-à-dire, on a, là je demande aux chanteurs et aux instrumentistes de changer de note, elles restent toutes dans un même champ harmonique, dans un même spectre, un peu élargi en quelque sorte, et leurs changements vont faire changer, vont faire osciller en espèce d'aller-retour le timbre, et encore une fois, on peut faire des rapprochements, des éloignements en hauteur. Donc, je peux représenter cette idée de s'approcher, de s'éloigner de plusieurs façons différentes. Et c'est aussi à moi de choisir, tu vois. Donc, je peux faire des oscillations autour d'une note qui est le La pour la flûte et le Si écrit, donc un La pour la clarinette. Donc, il y a des oscillations plus ou moins étroites autour de cette note qui n'est pas jouée et en même temps des oscillations rythmiques sur cette note-là. Tu vois, qui est joué par le vibraphone. C'est un vibraphone qui joue ça. Donc, ce n'est plus une application, parce que je considère que l'application, c'est d'un point à un autre, directement. Paf, paf. 1 plus 1 égale 2. Donc, croche, croche, noir, par exemple. Tu vois. Et là, je représente de plusieurs façons différentes la même idée mathématique. C'est-à-dire, et là, je sors donc de... Ce n'est pas une application, parce que ce n'est plus une fonction... passe des maths à la musique, donc je prends un truc et je le mets là, je le mets là et je le mets là aussi. Et je cherche une espèce de consistance musicale ici, entre ces trois choses qui en fait représentent la même au départ, et je mets des bouts pour avoir une consistance musicale, pour que, même si musicalement ce n'est pas la même chose, ça, ça et ça, je veux les faire aller ensemble. Donc je me sers aussi de cette multiplicité des représentations, que j'ai moi-même construite, je pourrais en faire 50 ou seulement 2, je me sers de ça comme matériel aussi.
Moi, j'avais une question, parce qu'on est dans une séance aussi informatique, composition assistée par l'ordinateur, oui. On a beaucoup parlé des mathématiques, applications des mathématiques, et disons, inspiration via les mathématiques pour la musique, mais est-ce que dans cette flèche qui va des mathématiques à la musique, il y a une partie importante, je vais par l'informatique. Parce que je sais que tu travailles aussi avec Open Music, des langages de programmation assistés par l'ordinateur. Est-ce que, donc il y a une donnée aussi au niveau de l'informatique qu'il faut prendre en compte quand il y a ces rapports?
Dans les pièces qu'on a entendues, non. En fait, dans mes pièces instrumentales, pour l'instant, pas vraiment. C'est-à-dire, je me suis très 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 peu servi d'Open Music ou de PWGL pour composer les pièces instrumentales. Les pièces où il y a de l'électronique, évidemment, on passe par l'informatique. Mais les manipulations que je fais, quand je fais de la musique électroacoustique ou des parties électroacoustiques qui accompagnent les musiciens ou des patchs qui vont transformer les sons des musiciens, je garde, presque malgré moi, une pensée plutôt instrumentale. Donc, j'ai fait personnellement très peu de programmation musicale, comme on peut en faire dans Open Music et dans PWGL, de programmation, par exemple par contrainte, pour dire que je veux obtenir une phrase qui ait telle propriété. J'ai très peu fait ça. C'est une chose vers laquelle je tourne ma recherche, mais je n'ai pas vraiment encore trouvé l'outil qui m'est en même temps utile et qui devienne indispensable. Je n'ai pas encore ressenti la nécessité d'aller chercher un de ces outils-là. Mais j'ai vraiment envie de m'y mettre. Quoi. Je crois que avec PWGL et avec d'autres interfaces, ça peut aboutir. Mais c'est une recherche que je commence, en fait, celle-là. De comment me servir de l'informatique musicale, des langages de programmation musicale, vraiment, pour faire ça. Ça, je ne sais pas encore. Justement, parce que c'est très libre, libre, entre guillemets, les passages que je fais. Je ne saurais pas aisément les formaliser. Voilà.
Ok. Je pense qu'on peut... On peut dire que la première séance du séminaire est conclue, donc est finie. Donc, merci beaucoup à Arturo, à Yann.
Merci à vous.
Et rendez-vous donc en mois de novembre. Il y aura donc le 10 novembre, ça sera la période du forum d'IRCAM. Pour ceux qui s'intéressent aussi au logiciel de l'IRCAM, c'est le moment pour voir qu'est-ce qui se fait au niveau de la recherche en informatique musicale. Et peut-être la séance de Numomix va aussi profiter du fait qu'on aura des informaticiens et des chercheurs en informatique musicale qui peuvent contribuer quelque part. Donc, oui, merci beaucoup et à la prochaine fois.
Merci. Merci, je suis très content aussi. Mais finalement, j'ai pas vu l'heure passer, je parlais beaucoup. On avait encore beaucoup de musique à entendre. Comme toujours.